sur RDL 103.5. Vous écoutez Et sinon la famille, ça va? L'émission qui explore la famille sous toutes ses facettes, animée par Olivier Garabet, généalogiste, enquêteur, biographe.
Allez, c'est parti, on embarque dans le train de la saga familiale.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RDL 103.5 et sinon la famille ça va, l'émission qui accompagne et questionne les parents et la famille tout entière dans les petits et grands défis du quotidien. On dit souvent que la famille est un pays dont on ne possède jamais tout à fait la carte, un territoire de frontières invisibles, de terres promises et parfois de zones de non-droit. On y naît sans l'avoir choisi, on s'y construit en miroir ou en rupture et l'on passe souvent le reste de sa vie à essayer de traduire les silences de ceux qui nous ont fait. Certains voient dans la lignée un refuge, une ancre dans la tempête. Pour d'autres, c'est un poids, une fiction qu'il faut réécrire pour enfin devenir soi-même. Mais entre le jeu et le nous, il y a le papier. Il y a ces livres qui, mieux que les albums photos, capturent l'invisible. L'odeur de la cuisine d'une grand-mère, la violence sourde d'un secret de polichinelle, ou la grâce d'une main tendue entre un père et son fils. Alors comment la littérature s'empare-t-elle de nos racines? Pourquoi avons-nous ce besoin viscéral de lire la vie des autres pour comprendre la nôtre? Accueillir une invitée, c'est parfois ouvrir un livre dont la couverture a été façonnée par des imprévus de la vie. Notre invitée aujourd'hui porte en elle l'amour des mots depuis toujours. Bonjour Nathalie Despera.
Bonjour Olivier.
La passion pour la lecture chevillée au corps depuis l'enfance vous a poussé à réaliser votre rêve et d'ouvrir la librairie Le Chat Perché à Colmar. Mais vous n'avez pas toujours été libraire et je vais vous laisser nous raconter votre histoire et votre librairie.
Oui, merci de m'accueillir Olivier aujourd'hui pour parler de ma vie de libraire et comment je suis devenue libraire. J'ai effectivement un parcours un peu atypique et un peu long. J'ai commencé au départ par des études qui n'étaient pas forcément des études littéraires. J'étais pas forcément très amie avec l'école au départ. Et puis, de fil en aiguille, des parents commerçants qui m'ont orientée vers plutôt des études de gestion. Et j'ai quand même toujours eu l'amour du livre chevillé au corps, puisque déjà toute petite, même dans les réunions de famille, j'avais toujours un livre sur la table, toujours un petit peu à l'écart avec un bouquin. Voilà, et puis peut-être que j'ai un peu écarté cette passion de ma vie, tout en continuant à lire, mais peut-être en ne me donnant pas la possibilité de le réaliser, ou en tout cas le droit. Et c'est venu beaucoup plus tard. Je suis devenue ensuite enseignante en gestion. Et puis, en me re-questionnant sur ma vie avec toujours un sentiment d'incomplétude, j'ai réalisé, j'avais déjà presque 50 ans, que je voulais vivre de ma passion, être libraire et à la fois gérer ma librairie.
Qu'est-ce qui a été le déclic? Quand vous avez passé le pas, en fait, pour dire, là, j'étais enseignante et puis je vais vraiment réaliser ce rêve d'ouvrir cette librairie?
J'ai toujours eu, en fait, au fond de moi, mais déjà très jeune, en fait, le sentiment qu'il y avait quelque chose qui me manquait, qui était fort. Et c'est peut-être la rencontre avec mon conjoint, tout simplement, la personne avec laquelle je vis aujourd'hui, qui m'a peut-être montré que c'était possible de réaliser certains rêves ou de vivre certaines choses importantes.
Voilà, il vous a donné l'impulsion d'entamer ce projet. Mmh. Et puis, lui, il a une spécificité aussi.
Oui, lui, il a une passion qui est les vignerons, le vin nature. Voilà, c'est sa passion.
Et donc, vous avez allié le livre et le vin.
Oui, quand j'ai réalisé mon projet, effectivement, j'ai souhaité lui laisser une petite place pour que lui aussi puisse faire perdurer un peu cette passion qu'il a en lui.
Alors Nathalie, parlez-nous de votre librairie, comment ça s'organise, qu'est-ce que vous vendez, où est-ce qu'elle se situe et l'alliage entre le vin et le livre.
Le choix du lieu, il est aussi très personnel. J'ai pas voulu être forcément dans le centre-ville de Colmar, je voulais vraiment un lieu qui me corresponde. Et donc le quartier Saint-Joseph, où j'ai choisi d'implanter ma librairie, ressemble un peu à ce que je suis, c'est-à-dire un mélange, beaucoup de mixité. Il y a beaucoup d'échanges et de simplicité dans ce quartier qui me correspondent. Et le lieu est assez petit parce que j'ai pas forcément trouvé la taille que je souhaitais, mais comme je voulais vraiment être sur cet endroit, j'y suis allée. Voilà, il y a bientôt 5 ans. Donc le lieu, effectivement, avec, on va dire, une petite place pour le vin de mon conjoint, avec la particularité d'une dégustation qu'il organise tous les samedis matins pendant le marché, Ça crée effectivement cette espèce de mélange qui fait la différence, je pense, et qui plaît. C'est le lien entre le vin, derrière lequel il y a aussi beaucoup d'hommes, des vignerons, et puis la littérature, les auteurs. Voilà, ça fait un lieu où on peut mélanger deux passions, mais on n'est pas obligé.
Alors au fil de l'émission, on va dérouler des différentes présentations de livres que vous avez choisis. Et je souhaite la bienvenue à Christine Autenvelter, qui est bien connue ici à la radio pour animer l'émission Coup de théâtre. Bienvenue Christine.
Mais bonjour Olivier, bonjour Nathalie.
Bonjour Christine.
Et alors Christine va nous prêter sa voix pour nous lire des extraits de différents passages. Mais avant ça, j'ai une question pour vous Nathalie. Quel est le premier livre que vous avez lu enfant qui vous avait fait comprendre ce qu'est un secret de famille ou le lien du sang?
Alors très jeune, on va dire peut-être Sans famille, que j'avais lu. Alors, dans mon souvenir, c'est assez lointain, hein, forcément. J'ai vraiment un souvenir de quelque chose qui m'a emporté à la fois par l'aventure et par le personnage qui vivait des choses un peu extraordinaires pour une jeune fille de mon âge. Voilà.
Alors, avant de continuer la discussion, je vous propose une première pause musicale avec précisément le générique version japonaise de Sans famille. Voilà une version originale de l'autre bout du monde de Sans famille. Alors voilà, Hector Malot a écrit Sans famille au 19e siècle. Et donc Rémi est un enfant abandonné qui parcourt les routes de France et d'Angleterre notamment. Il est saltimbanque et il cherche à découvrir le secret de ses origines. Et puis l'un des extraits que va nous lire Christine est les plus célèbres, des plus poignants de Sans famille. Il est publié d'ailleurs en 1878 et il se situe au tout début du roman. C'est le moment en charnière où le jeune Rémi, âgé de 8 ans, découvre brutalement qu'il est un enfant trouvé et qu'il doit être vendu au vieux musicien ambulant Vitalis. Donc ce passage, il marque la fin de son enfance complètement innocente auprès de sa mère adoptive, mère Barberin, et le début de sa longue vie d'errance. Je voudrais que Christine nous prête sa voix à l'instant pour nous lire ce passage.
Je ne devais pas marcher longtemps avant de me retourner. Arrivé au sommet de la côte, là où le chemin commence à descendre sur l'autre versant, et d'où l'on aperçoit une dernière fois la vallée, je m'arrêtai. Devant moi, à une grande distance, je revis notre maison. De la place où j'étais, elle ne m'apparaissait plus que comme un point blanc perdu dans les arbres. Mais je la reconnaissais bien. Il me semblait que de la fumée sortait de la cheminée. Était-ce une illusion, ou bien était-ce une réalité? Cette fumée, si c'en était une, c'était maman Barberin qui l'allumait. Elle était là, assise au coin du feu, pensant à moi, regardant ma chaise vide, ou bien elle marchait dans la cour, disant « En ce moment, il s'en va ». Mes yeux se troublèrent, je ne vis plus rien. Les larmes me jaillirent des paupières et je me laissai tomber sur l'herbe du fossé tout en pleurs. « Allons, mon garçon, me dit Vitalis d'une voix qui n'avait plus sa dureté de tout à l'heure. Du courage !» Il mit sa main sur mon épaule. « Ce n'est pas une honte de pleurer, ajouta-t-il. Cela montre qu'on a du cœur. Mais il faut s'armer contre le chagrin. Crois-tu que tu sois le seul qui soit séparé de ceux qu'il aime? C'est la loi de la vie, mon enfant. Il faut s'y soumettre. »
Voilà, un beau passage. Alors Nathalie, pourriez-vous nous donner votre ressenti vraiment intime sur ce roman, ce que vous avez vécu en tant que lectrice à ce moment-là, à votre âge d'enfant?
Alors il y a déjà, le récit, il est à la première personne. Donc je trouve que ça donne l'impression de s'identifier aussi à ce personnage. Et moi, ce qui m'a vraiment plu dans mon souvenir, c'est... le côté saltimbanque aussi, avec les animaux, la musique, c'était une vie aussi assez incroyable. Et puis il y a toute l'empathie des personnages qu'il va rencontrer tout au long de sa quête finalement. Il va y avoir beaucoup de... Il va se créer sa propre famille aussi, ce garçon, avant de retrouver la sienne. Parce qu'il y a quand même une fin heureuse dans cette histoire, pour les enfants, pas que pour les enfants d'ailleurs.
Et est-ce que vous avez pleuré quand vous l'avez lu?
Je ne me souviens pas. Je sais que j'ai gardé une émotion assez forte de ce roman, mais c'était un ensemble, finalement.
Et en tant que libraire, est-ce que vous lisez ce roman comme une œuvre misérabiliste ou au contraire comme un immense message d'espoir et de résilience? Comment vous conseillez, s'il y a de la demande sur ce roman-là? Et est-ce que d'ailleurs, il y en a?
Ben, peut-être pas forcément, mais en tout cas, il y a de la demande si on la provoque. Mais je trouve pas que ça soit un roman misérabiliste. Bon, après, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça correspond aussi à une époque. On est au 19e siècle et ça décrit, ça va plus loin que juste un simple roman, parce qu'il y a aussi toute la partie, on découvre le monde ouvrier avec ce roman, pour un jeune aussi. On découvre l'époque et la difficulté et la misère du monde ouvrier. Donc c'est un roman qui est beau parce que les personnages sont jolis et ça peut se lire à n'importe quelle époque, je pense. Encore aujourd'hui, mais c'est pas misérabiliste. C'est plein de beaux sentiments, mais c'est pour la jeunesse. Je trouve que c'est toujours porteur de jolis messages.
Et alors le cœur du roman, c'est la redéfinition de la famille en fait. Hein. Rémi trouve ses vrais parents en cours de route, Mère Barberin, Vitalis, bien avant de retrouver sa famille de sang. Est-ce que vous pensez que cette vision très moderne de la famille choisie, est-ce que ça rend ce livre indémodable ou ça reste quelque chose qui un écrit fondamentalement du 19e, ou est-ce qu'on peut faire des passerelles avec l'actualité ou avec des... Je vois bien dans mon métier, par exemple, de généalogiste, enquêteur, de plus en plus de gens recherchent leurs racines, sont en quête d'identité. Voilà, votre point de vue m'intéresse sur cette question.
Est-ce qu'on peut faire des passerelles? Alors, moi, je pourrais faire une passerelle, après, pour de la littérature, on va dire plus fouillée, on pourrait faire une passerelle avec Zola, par exemple, qui aussi a fait une fresque sociale sur cette époque. Mais après, on peut faire des passerelles avec aujourd'hui. La famille, elle est plein de choses. Elle est recomposée, elle est décomposée. Elle a évolué, la famille a changé, l'époque a changé. Mais ça permet de découvrir, en tout cas, les romans permettent de lire une époque et de comprendre l'évolution. Comment aujourd'hui la famille a changé. Parce que ce que décrivait Hector Malot à l'époque... Peut-être qu'aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus naturel, en fait. Les amitiés, les familles qui se choisissent davantage.
Oui, la famille choisie. Selon vous, et est-ce que vous avez observé dans la littérature de manière plus large, est-ce qu'on se doit d'aimer ses parents?
Je crains malheureusement qu'on ne puisse s'y échapper. Je pense que c'est compliqué de ne pas aimer ses parents, en fait. Je pense que c'est quasiment... Enfin, peut-être que ça existe, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on se doit? Non. Personnellement, je pense qu'on ne se doit pas. Mais est-ce qu'on peut faire autrement? Je ne sais pas.
Les deux livres, le précédent, donc Sans famille, et celui que nous allons évoquer, parlent au fond de la même chose. Hein. Comment on construit une famille choisie, non biologique, sur les routes. Donc, après le voyage fondateur de Rémy au XIXe siècle, Aude Seigne nous propose un voyage familial au XXIe siècle, donc on saute dans le temps, dans son roman Le Nord à contre-jour. Et sans plus attendre, Christine, je vous propose de lire un extrait du Nord à contre-jour.
Oui, c'est d'ailleurs la belle-mère qui parle, c'est important de le savoir. La première fois que nous nous sommes retrouvés tous les cinq, 7 mois plus tôt, le bonheur violent était déjà là. Je nous revois. La petite main de Sophie dans la mienne, levant toutes les deux le nez depuis le passage sous voie, leurs 3 silhouettes qui se détachent au-dessus de nous dans l'encadrement du ciel. Ils nous attendent et sourient. Je ne pensais pas qu'ils souriraient. J'ai monté lentement les escaliers vers eux, prenant de grandes inspirations, croisant le regard brillant de Lucas. Une phrase tournait tonitruante dans ma tête. Enfin, ils savent. Enfin, ils savent que j'existe et que je suis l'amoureuse de leur père. Quelques semaines plus tôt, alors qu'ils se trouvaient en vacances tous les 3, Lucas leur a parlé de moi. Il ne leur a pas dit que nous nous connaissons depuis des années, mais je suis heureuse quand même. Cela me fait tout drôle d'exister dans la vie de ces 2 enfants que j'ai suivis jusque-là à distance, cachés dans les coulisses de leur vie. Dans la voiture, Sophie n'a pas ouvert la bouche pendant les 30 premières minutes, intimidée par ses 2 enfants à côté de qui elle était ficelée sur un rehausseur. Athéna lui a proposé d'écouter Henri Dess, Sophie a acquiescé avec un doigt dans la bouche. Quand elle a vu que cette grande fille chantait à tue-tête ses répertoires d'enfants, elle a immédiatement été séduite. Nous avons visité des grottes, Athéna marchait à côté de moi, me confiait qu'elle n'aime pas le noir, puis nous avons fait un pique-nique au bord d'un lac. Je me suis baignée jusqu'à une plateforme flottante, Neville et Athéna qui adorent nager m'ont suivi. Je leur ai tourné le dos pour enlever mon haut de maillot de bain. J'ai remarqué un insecte dans les cheveux d'Athéna, et lui a demandé si je pouvais l'enlever. Tout semblait simple, même cette proximité physique. En fin de journée, les voyant courir tous les 3 dans l'herbe en hurlant leurs prénoms respectifs, Lucas m'a demandé pourquoi nous doutions toujours alors qu'à chaque étape, tout est tellement évident.
Merci Christine. Nathalie, que nous raconte ce livre ?
Alors, juste pour resituer un petit peu, dans ce livre, c'est un couple qui s'est rencontré déjà quelques années auparavant. Lui, il est veuf et il a beaucoup, beaucoup de mal à vouloir présenter sa nouvelle compagne à ses enfants. Moi, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est vraiment la délicatesse de cette femme, en fait, avec ses enfants. Et en fait, ils sont tous les deux. Ce qu'ils veulent, finalement, c'est aussi plaire aux enfants de l'autre. Et je trouve que les descriptions sont belles, poétiques et c'est très délicat. Voilà ce qui m'a plu.
On s'y croit, on plonge rapidement, c'est une écriture très directe, très sensitive.
Oui, c'est très humain.
Très humain.
Oui. En tout cas, on peut effectivement facilement s'identifier, déjà parce que je pense que c'est quelque chose que vivent peut-être beaucoup de familles. La rencontre, c'est quelque chose de très décisif en fait, rencontrer les enfants de l'autre quand on est dans une recomposition de famille. Et c'est vrai que je trouve qu'elle fait ça de manière très lente et c'est très délicat. Voilà, c'est ce qui m'a plu.
Dans ce passage, il y a une honnêteté désarmante, en fait. Quelque chose, une sorte de mise à nu de cette femme qui montre sa vulnérabilité dans ce passage. Est-ce que vous avez ressenti la même chose ?
Peut-être que c'est ce qui m'a interpellée dans ce roman. C'est effectivement le côté très sincère de cette autrice qui est en même temps à fleur de peau, mais qui n'hésite pas à dire les choses qu'elle ressent, qu'elle vit.
Alors, sans dévoiler la fin, évidemment, comment continue l'histoire ? Est-ce que la relation se fait avec ses enfants ? Comment chacun se positionne, chacune ?
Alors, l'histoire, elle continue effectivement tout au long des vacances et il va y avoir des périodes un peu plus difficiles, même des périodes de questionnement, d'écartement des uns des autres. Et puis, ils vont trouver leur doucement. C'est comme un puzzle qui va s'emboîter. C'est quelque chose de long et de fragile, en fait, la recomposition d'une famille.
De long et de fragile. Par exemple, qu'est-ce que vous avez observé dans le roman comme problématique ? On peut pointer là un exemple.
Ben, il y a déjà les enfants, il y a la jalousie quand on a son propre enfant et ben, réussir à montrer de l'affection aux enfants qui ne sont pas forcément les siens, tout en ne frustrant pas ou en ne négligeant pas sa propre fille, c'est délicat. Il faut trouver la juste position, les justes mots, c'est tout un travail beaucoup plus pédagogique et c'est beaucoup plus difficile en fait que la famille toute simple.
Et comment se positionne le père au fil du roman ?
Il est un peu attentiste, le père. Un peu en retrait, mais c'est aussi leur personnalité aux deux. Ils sont assez. C'est pas des personnages qui tapent, qui cognent. C'est vraiment tout en finesse quand même, que ça soit le père ou cette femme. En fait, les deux restent très à l'écoute l'un de l'autre et le dialogue est toujours poursuivi tout au long du roman entre le couple. C'est ce qui est important aussi.
Donc, on parle bien d'un roman qui traite de la question de la famille recomposée. Et sans plus attendre, on va faire une pause humoristique avec Chevalier et Laspalès sur la question de la famille recomposée.
Dis donc, est-ce que t'étais au mariage de Roger, toi ?
Quel Roger ?
Ben, le beau-frère de Marcel.
Quel beau-frère ?
Ben, celui qui a épousé sa sœur.
Tu connais un gars qui a épousé sa sœur ? On a le droit ?
Mais non, mais pas sa sœur à lui, la sœur de son beau-frère.
On a le droit d'épouser la sœur de son beau-frère ?
Ben, c'est même recommandé si ta fiancée a un frère et que tu veux qu'elle soit ta femme.
Ah, tu parles du Roger qui s'est marié avec la sœur de Marcel, j'avais pas compris. Non. Parce qu'en fait, c'est sa demi-sœur.
Ah, c'est une demi-sœur seulement. Ah oui, j'avais pas remarqué. Faut dire que je l'ai vue qu'à table et je pensais qu'elle était assise.
Et c'était bien le mariage de Roger ?
Ah ben j'en sais rien, moi j'étais au mariage d'Albert.
Albert qu'on connaît ?
Eh ben oui, celui qui a divorcé de sa première femme.
Ah bon, il s'est remarié. Avec qui ?
Ben avec celle qui est devenue sa deuxième femme et qui en fait est la sœur de la première.
Donc il épousait sa première belle-sœur en deuxième noce, voilà. Alors. Donc sa première femme devient sa belle-sœur.
Voilà, ouais, ouais.
Alors voilà, on voit que les familles recomposées sont souvent et parfois compliquées à comprendre. Nathalie avait une question. Pourquoi dans la littérature cherche-t-on à lire sur la famille des autres ? Est-ce que c'est pour se rassurer, pour s'évader, pour comprendre ? Que se passe-t-il ? Le lecteur, dans votre librairie, vous dit « Ah ouais, j'aimerais bien un roman qui parle de la famille. »
Alors déjà, presque tous les romans parlent de la famille. Je pense que c'est un thème qui est universel, qu'on retrouve dans quasiment toutes les lectures, toute la littérature. Après, ce qu'on cherche, je pense qu'on cherche tous à peut-être à décrypter un petit peu plus nos vies, nos identités. Après, je suis pas sociologue, donc je peux pas me projeter, mais je pense que ce qu'on recherche, c'est vraiment peut-être d'abord se retrouver dans ce qu'on va lire, et peut-être des clés de compréhension pour soi-même. Je ne prétends pas détenir la vérité.
Et alors pourquoi les auteurs contemporains ont ce besoin viscéral de parler et d'écrire de leurs parents ? Qu'est-ce que ça raconte de notre société aujourd'hui ?
Peut-être une société où on s'écoute davantage, où on cherche davantage en soi des réponses. On a peut-être plus ce côté réflexif intérieur qui n'existait pas à d'autres époques. Mais la famille, ça reste vraiment pour tout le monde un sujet très fort, qu'on la connaisse, qu'on la connaisse pas, qu'on se découvre d'autres familles ou qu'on la construise autrement, ça reste notre puzzle intérieur. C'est vraiment notre...
Une colonne vertébrale, en somme.
Oui, je pense. Hein, on a besoin de racines pour tenir debout. On cherche sans cesse, en fait, des réponses, je pense, à nos origines, surtout quand on les connaît pas.
Je vous propose de rentrer dans le cœur de cette question en écoutant un extrait choisi du roman « Non, N-O-M » de Constance Debray, lu par Christine.
J'aurais pu avoir un père, une mère, des frères, des sœurs, un signe astrologique, une ligne de la main, un profil ayurvédique, un groupe sanguin, une religion, des opinions. J'aurais pu avoir une couleur préférée. J'aurais pu avoir des fétiches, des porte-bonheurs, des icônes, des idoles. J'aurais pu avoir des blessures, des nostalgies, des reproches, des regrets. J'aurais pu me dire d'une génération, d'un pays, d'une ville, d'une époque, d'un milieu. J'aurais pu me réclamer d'un genre ou d'une sexualité. J'aurais pu chercher une définition de moi-même. J'aurais pu croire à l'identité et chercher la mienne. J'aurais pu me dire victime ou coupable. J'aurais pu dire « j'accuse » ou « mea culpa ». J'aurais pu chercher une origine, une cause, un pourquoi. J'aurais pu croire à la généalogie, à la sociologie ou à l'ADN, chercher du côté des rabbins, des nobles, des basques, des ministres ou des camés. J'aurais pu croire à tout ça. J'aurais pu en avoir les poches pleines. J'aurais pu aller voir un psy 2 fois par semaine. J'aurais pu lui demander de m'aider à me faire vouloir tout ce dont je ne veux pas. J'aurais pu lui demander de me guérir. Je vis sans propriété, sans famille, sans enfance.
Dans ce roman, Constance Debré commet un véritable infanticide à l'envers. En tout cas, j'ai cette impression. Elle liquide le passé, vend l'appartement familial et jette les meubles. Voilà, quel a été votre ressenti lors de la lecture de ce texte et de quoi finalement nous parle ce roman ?
Ce roman ne nous parle que de la famille. Alors moi, ce qui m'a plu dans ce roman, c'est vraiment la radicalité de son écriture, de son ton. Constance Debré, c'est vrai qu'elle cherche en fait à penser autrement, à trouver son identité en dehors de sa famille. En même temps, tout le roman, elle accompagne son père tout au long de la fin de sa vie pendant ce roman. Donc en même temps, elle est aussi liée à sa famille malgré tout. C'est ce qui est assez complexe dans ce roman. Mais elle est fabuleuse. Enfin, moi, j'ai adoré ce roman par cette franchise et ce coup de poing qu'elle met dans...
Mais c'est une écriture très incisive, tellement incisive, voire drôle en fait, mais on rit jaune hein, finalement.
Oui, bah moi je la trouve presque même un peu violente, mais oui. c'est ce que j'aime aussi, ça lui correspond en fait, et c'est autobiographique.
Est-ce que vous pensez que ce livre peut être proposé aux ados ?
Oh bah oui, Constance Debré, alors, elle a, je pense, quitté son métier, quitté son appartement, elle a tout quitté pour à un moment justement essayer de se libérer, d'être plus libre et d'avancer dans sa vie avec ses propres choix. Elle le dit plusieurs fois dans le livre, en fait. Elle a une éducation qu'elle a reçue, elle a des codes qu'elle a en elle, et elle ne peut pas s'en défaire réellement. Malgré tout, c'est là. C'est aussi ça qui est intéressant, je trouve, dans ce livre.
Mais qu'est-ce qui provoque cette violence, cette colère-là tellement intense chez elle ?
Peut-être, justement, elle s'est sentie enfermée. On sent qu'elle a été enfermée toute son enfance, toute son adolescence, dans ses codes, qu'elle ne se sentait pas bien, finalement. C'est ça, je pense. Ça, c'est juste quelque chose qui, au fond, c'est très difficile de laisser émerger sa personnalité, de se trouver dans un monde qui ne lui va pas. C'était un habit qui ne lui convenait pas.
Oui, donc elle fait sauter les codes qui lui permettent de pouvoir se libérer.
Très jeune. Elle va déjà choisir sa scolarité. Ils veulent lui faire une classe prépa, je crois, et elle ne veut pas. Elle va rentrer en droit, mais en fait, elle s'est pliée très longtemps parce qu'elle n'avait pas le choix. Et c'est comme ça. Il y a des gens qui peuvent se plier, d'autres qui ne peuvent pas. Je pense qu'elle fait partie d'une catégorie de personnes très indociles, finalement, peut-être.
C'est plutôt une bonne chose aujourd'hui d'être indocile.
Oui, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, je ne pense pas qu'on choisisse hein, d'être indocile.
Alors, dans l'émission, nous avons parlé de Sans famille, d'Hector Malot, où la famille est une quête, et du Nord à contre-jour, d'autres saignes, où l'on tente de construire finalement une famille. Avec Constance Debré, on détruit la famille pour se trouver soi-même. Est-ce que la grande tendance de la littérature contemporaine, c'est finalement de désacraliser le mythe familial ?
En ce moment, oui, je pense qu'il y a une volonté de désacraliser le mythe familial, puisqu'il y a des nouvelles constructions que l'on voit éclore. Après, tout dépend de l'image que l'on se donne de la famille ou la définition. Et effectivement, on peut faire famille autrement.
On peut faire famille autrement. Je vous propose de faire une pause musicale avec Compromat, Lift Me Up, en écho avec le roman de Constance Debré.
Je t'envoie l'ascenseur. Je veux gravir des sommets avec toi. Tu
poursuit avec le coup de cœur contemporain. Il s'agit d'une sortie récente que vous avez présentée d'ailleurs, Nathalie, avec Christine, lors d'une soirée dédicace au Lézard dernièrement. Nathalie, vous avez choisi de nous parler de Les bateaux sur la terrasse de Jesse Raymond Lacroix, qui traite des liens mère et fils et de la transmission. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous a touché dans cette proposition?
Alors, ce qui m'a touchée d'abord, c'est tout simplement déjà Jesse, parce que je l'ai rencontré, c'est sa grande sensibilité et sa volonté peut-être de réparer et de se réparer aussi lui, parce qu'en fait son histoire personnelle et qu'il a souffert de harcèlement à l'école, de par son côté efféminé, qui n'a pas forcément été vu ou reconnu à l'époque par sa maman. Et ce qui m'a beaucoup plu, en fait, c'est qu'il va décliner toute une série de portraits de famille. Dans les années 90, un oncle atteint du sida et une grand-mère qui va être le pilier du roman pour moi et qui, autour d'elle, va s'orchestrer un peu toute l'histoire de la famille, finalement. Et il va la décrire avec beaucoup de douceur, beaucoup d'humilité et beaucoup de délicatesse. Et c'est vrai que Jesse prend grand soin de cette grand-mère tout au long de ce roman et même de sa maman qui ne souhaite pas blesser malgré tout.
Écoutons un extrait de ce jeune auteur qui est d'ailleurs aussi comédien et chroniqueur sur France Inter. Lorsque Jesse arrive pour déjeuner et observe sa grand-mère à son insu.
Elle porte une de ses robes à fleurs brunes, taillée comme un tablier qu'elle affectionne particulièrement. Cette coupe lui va bien. Où les achète-t-elle? Ce n'est pas le genre de tenue qu'on voit dans les magasins. Peut-être commande-t-elle encore sur catalogue? À moins qu'elle nous aide depuis longtemps et en prenne grand soin. Je penche pour cette option. Or, je jurerais que celle-ci est neuve. À tous les coups, elle s'est fait belle pour la représentation. C'est sûr même quand je vois sa permanente. Jamais sa coiffure n'a eu autant de volume. Elle a mis une perruque ou quoi? J'en rirais si je n'étais si touchée. J'ai envie de la prendre dans mes bras et de l'embrasser. Mais comme elle ignore que je suis là, et qu'à cet âge, chaque surprise peut être fatale, inutile de déconner. Elle lave un grand bol dans l'évier, et je remarque une tarte automate fumante sur le plan de travail. Le four est encore en marche. Je me penche et découvre que des cucurbitacées cohabitent avec une tarte aux pommes, chacun à un étage. Je ne peux m'empêcher de penser que la tarte va prendre le goût des courgettes. Mais je ne dis rien. J'aurais bien du culot à me poser en expert. Elle ne se retourne pas. Je vois seulement ses boucles blondes rebondir à chaque coup d'éponge. J'ignore ce qu'elle a sali, mais c'est coriace. Elle fredonne aussi. Une habitude que je ne lui connais pas, tiens. Fredonne-t-elle toujours quand elle est seule? Étrange et gênante impression de forcer son intimité. Je me sens presque coupable. Le fredonnement est si léger que j'ai d'abord cru au chant étouffé des cigales dans les pins ou au bourdonnement lointain d'un appareil électrique. Mais non, c'est elle, un air sans parole dont elle semble connaître par cœur les variations. Un souffle musical retenu, timide, alors qu'elle se pense seule. C'est marrant. Je ne l'aurais pas imaginée en femme qui chantonne, elle si discrète et incapable de manifester son bonheur. Les gens qui fredonnent s'affichent, disent qu'ils vont bien, veulent qu'on le sache. Et Madeleine n'est pas ainsi. Elle a la pudeur de ceux qui ont connu les malheurs. Peut-être est-ce pour cette raison qu'elle ne se laisse aller qu'une fois seule. Elle s'en voudrait qu'on la croie légère.
Un magnifique passage. Nathalie, on a vu un petit peu la relation, ou en tout cas la description que donne Jesse pour sa grand-mère. Quelle est la relation qu'il a avec sa mère?
Alors, tout au long du roman, il a une relation beaucoup plus tendue, beaucoup plus distante avec sa mère. On sent vraiment qu'il lui en veut, qu'elle n'est pas à son écoute, qu'elle est tournée vers elle. Et petit à petit, ils vont trouver une façon de se parler, de se comprendre. Mais il aura besoin, je pense, de passer effectivement par ce fil identitaire, cette grand-mère, cet oncle, pour peut-être mieux comprendre, peut-être aussi comprendre si sa grand-mère est autant taiseuse. Peut-être que sa mère a hérité un petit peu de la façon d'être et de penser de cette femme à travers son éducation.
Et alors, il y a une image qui revient de manière récurrente dans ce roman, une image qui nous propose le voyage. Pouvez-vous nous en parler ?
Alors, c'est les bateaux sur la terrasse. C'est ces bateaux que cette grand-mère, quand ils ont acheté cette maison, finalement, dans le sud, elle a toujours en adoration ce paysage, finalement, de bateaux. On voit au loin, effectivement, des bateaux qui viennent, qui s'éloignent depuis leur terrasse. Et dans le roman, en fait, il se sert de cette image pour parfois la relier à des personnages, à des moments de vie qui sont comme si c'était les bateaux qui s'éloignent. Parfois, ça peut être des souvenirs qui s'en vont ou des personnages qui ressurgissent. En fait, c'est comme si c'était des compagnons, ces bateaux, pour lui.
Une sorte de rituel qui permet de s'évader et puis de poser un cadre.
Oui, c'est une métaphore. Il l'utilise à plusieurs endroits dans le roman. Ces bateaux sont le symbole des souvenirs de sa grand-mère.
Le livre, il tourne autour de cette formule, je trouve, magnifique et aussi douloureuse, ceux qui nous ont aimés de travers. Est-ce que vous trouvez que ce premier roman, il évite les pièges du règlement de compte familial pour aller plus vers quelque chose de plus grand, du pardon, de la résilience ? Comment se positionne l'auteur sur cette question ? Quelle est son intention ?
Son intention, je pense que c'est de comprendre, de décrypter un petit peu justement son histoire personnelle. Après, Jesse est un jeune homme assez jeune qui est encore, je pense, dans une période de sa vie où c'est pas comme Constance Debray qui a déjà passé la cinquantaine et qui a déjà accompli une partie de sa vie. On n'est pas dans la même quête, je pense. Jesse, lui, il a besoin encore de cette famille, de comprendre d'où il vient. Il a fait son spectacle sur sa famille aussi. Donc c'est très fort chez lui, ce besoin d'être accepté aussi. Parce que chez Jesse, il y a son homosexualité qui est toujours latente et qui est là, dont il a fait effectivement le thème de son spectacle. Pas que, mais il a fait aussi son spectacle sur la famille recomposée en même temps. Chez Jesse, c'est vraiment une nécessité de montrer à sa mère qui il est, je pense. Et ça, c'est moi et je suis là et j'ai vécu ça, de faire reconnaître sa douleur aussi. Puisqu'il a l'impression qu'elle ne l'a pas vu, qu'il ne l'a pas compris. En fait, c'est ça qu'elle va lui dire à un moment. J'ai pas vu. Je m'excuse, mais je n'ai pas vu, en fait. Elle a pas vu. Parce que lui, il était aussi dans cette lignée. Il ne parlait pas non plus. Il ne racontait pas quand il rentrait de l'école qu'il était harcelé.
Et cette question de l'homosexualité qui est exprimée, hein, mais qui, dans le roman familial, on voit que c'est un sujet tabou. En tout cas, une problématique qui potentiellement pose problème. On le voit avec l'oncle. Quelle est votre lecture sur cette question dans le roman ?
Je ne sais pas si c'est un vrai tabou. En tout cas, on n'en parle pas. Dans cette famille, c'est la grand-mère finalement qui a perdu cet enfant, ce fils qui est l'oncle dans les années 90. Il y a des scènes magnifiques où à un moment le fils se blesse avec une épine, l'épine d'une rose, et il y a ce sang qui coule et on sent qu'il est face à cette mère et elle a peur. Et elle a peur parce qu'elle pense, maladie, et il est déjà malade d'ailleurs. Après, oui, c'est caché, c'est sûr. Dans les années 90, avoir un enfant homosexuel, c'était peut-être moins assumé qu'aujourd'hui.
Alors, tout au long de cette émission, nous avons parlé de la famille, celle que l'on perd avec Hector Malot, celle que l'on construit dans le train avec Haute-Seigne, celle que l'on détruit avec Constance Debray. Est-ce qu'avec Jesse Raymond Lacroix, on apprend enfin à réparer la famille ?
Jesse, lui, en tout cas, a trouvé, je pense, la façon pour lui de se construire et de se réconcilier avec sa famille. Après, je ne sais pas si pour tout le monde, c'est la recette. C'est la sienne, en tout cas.
Et alors, c'est un premier roman que nous offre Jesse. Et souvent, dans les premiers romans, il souffre de manque de visibilité face au poids lourd de l'édition. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'en ouvrant ce livre, qu'il fallait absolument le défendre et le mettre en avant sur vos tables ?
Peut-être parce que j'ai persévéré, parce que quand j'ai ouvert ce roman, j'ai été jusqu'à la 70e page pour découvrir Jesse. Le début ne m'a pas forcément parlé. Et puis, ce n'est qu'après, quand il rentre vraiment dans cette histoire de famille et de ta grand-mère et de ses portraits, que j'ai beaucoup aimé, en fait, sa façon très délicate et ces années, cette époque qu'il décrit avec les nappes, qui sont... Enfin, je trouve que c'est important de rappeler aussi ces années 90 et toutes ces personnes mortes du sida qui, à l'époque, vivaient cachées. Voilà, c'est un ensemble de choses qui m'a fait aimer ce roman. Peut-être.
Merci Nathalie. Je vous propose à présent une nouvelle pause musicale avec Grégoire, Tout ce qu'on dit et qu'on ne fait pas.
Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il suffirait de rien, juste un peu de courage, prendre son destin en main, apprendre à oublier
et à tourner la page. Il suffirait de rien, comme il dit, juste un signe, rien qu'une aubin matin, et décider enfin d'écrire ses propres lignes. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danses qu'on ne danse pas, tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il suffirait de rien, juste la résilience, n'avoir plus peur de rien, bousculer son confort et prendre un peu le risque de provoquer la chance. Il suffirait de rien, au juste de choisir, ne plus remettre à demain. On ne change pas le passé, ce qui est fait, fait, mais on écrit l'avenir. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danses qu'on ne danse pas, tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a trop de routes que l'on ne prend pas, il y a trop de doutes que l'on garde en soi, il y a trop de choses que l'on n'ose pas, trop de bouquets de roses que l'on n'offre pas. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danses qu'on ne danse pas, tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas.
Alors Nathalie, je vous propose à présent de vous poser une question. Si vous deviez léguer un livre à un enfant, lequel serait-il ?
Alors si c'est un livre pour dire qui je suis à l'enfant, c'est
oui.
Ça ? J'aurais choisi le livre que j'ai lu il y a très longtemps de Jonathan Livingstone, Le Goéland, de Richard Bach, qui me plaît beaucoup dans le refus justement de cet oiseau de se limiter à voler uniquement pour ses besoins et qui va partir en quête de sa liberté, de ses propres limites.
Merci Nathalie. C'est le mot de la fin. Vous nous rappelez l'adresse de la librairie ?
Oui, 64 rue du Logelbach à Colmar, c'est place Saint-Joseph.
Vous avez un site internet ?
Oui, librairie Le Chat Perché, Cavava. Il vaut mieux aller voir sur Instagram et sur Facebook.
Voilà, merci Nathalie. On se quitte avec cette phrase de Woody Allen qui aurait fait un excellent résumé de notre émission du jour. La famille est une merveilleuse institution à condition d'aimer vivre avec une institution. Merci à Nathalie de sa présence et n'oubliez pas de pousser la porte de la librairie Le Chat Perché à Colmar. Remerciements à Peggy en régie aujourd'hui, Christine qui nous a prêté sa voix. Portez-vous bien. Et bonne journée.
Et sinon la famille, ça va, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon retour dans votre arbre généalogique et attention au courant d'air entre les branches.